nous, bonsoir.
Bonsoir.
Quoi neuf dans l'info?
On débute avec une bonbonne de gaz taguée FLNC qui s'est révélée vide et qui a été découverte cet après-midi devant le site susceptible d'accueillir le centre d'enfouissement de déchets de Dioncade, où le portail était également barré avec la même inscription. Un périmètre de sécurité a été mis en place, les démineurs se sont rendus sur les lieux, la section de recherche de la gendarmerie a été chargée de l'enquête, le parquet national antiterroriste a été avisé de cette découverte, c'est ce qu'a indiqué Caroline Tarot, la procureure de la République de Bastia.
Didier, une macabre découverte.
Le corps du randonneur allemand qui avait disparu depuis le 6 octobre dernier a été retrouvé en milieu d'après-midi à 1700 mètres d'altitude dans la descente de la Manitch. Son corps gisait dans le ruisseau du Rhinose. Samuel Schorer, 29 ans, avait disparu dans la région des Lacs. À Corté, son véhicule se trouvait sur le parking de la Restonig. Les gendarmes du PGHM de Corse du Sud, appelés en renfort de leurs collègues de Haute-Corse, l'ont retrouvé après une reconnaissance par hélicoptère. Son décès serait consécutif à une chute. Les avocats des barreaux d'Ajaccio et de Bastia se sont souvenus aujourd'hui d'un des leurs.
Et oui, Antoine Solacaro, assassiné le 16 octobre.
Et depuis 7 ans, les avocats du barreau d'Ajaccio observent une minute de silence avant que l'actuel bâtonnier ne lise un discours sur les marches du palais de justice, rendant hommage à leurs collègues et appelant la justice à faire son travail. 7 ans après, l'enquête n'a toujours pas abouti. C'est la GIRS, la juridiction interrégionale spécialisée dans le grand banditisme, qui a le dossier en main. Olivier Castel, les avocats et surtout la famille garde-t-il espoir?
Celles et ceux présents sur les marches du palais de justice veulent y croire. La famille, les confrères, tous attendent depuis 7 ans que la justice trouve les coupables et que le procès puisse s'ouvrir. En août 2018, 3 hommes, Jacques Santogne, André Bacchiolé, Lié Michaele et Tori, avaient été renvoyés devant les assises dans ce dossier. Mais le 21 janvier dernier, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné un complément d'enquête et renvoyé le dossier à la chambre d'instruction de la GIRS. Une confrontation entre Jacques Santogne, chef présumé de la bande ajaxienne du Petit Bar, et Patrick Giovannone, un collaborateur de justice qui pointait la responsabilité de Jacques Santogne, devait être organisée. Du côté des avocats de la famille, on ne souhaite pas commenter ce qui relève du secret de l'instruction. Les actes sont en cours de réalisation, précisons simplement. Des éléments venant d'un dossier de trafic d'armes dans lequel Patrick Giovannone est mis en cause devraient également être versés au dossier. La complexité de l'affaire ne décourage pas ceux qui demandent justice. Stéphane Neza en tête. L'actuel bâtonnier du barreau d'Ajaccio cite le dramaturge Jean Racine. Il n'est pas de secret que le temps ne puisse révéler.
Un barrage anti-pollution installé par précaution autour du cargo Rodanus qui s'est échoué à proximité de Bonifacio dimanche. Avant le début des opérations de pompage des 38 tonnes d'hydrocarbures qu'il contient, cette mise en place est préventive, insiste la préfecture maritime, précisant qu'il n'y avait toujours aucune pollution constatée, que la société envoyée par l'armateur et les assureurs pour le pompage était sur place et commençait à installer le matériel. L'évacuation totale du bateau pourrait prendre quelques jours comme quelques mois, avait estimé le préfet maritime de Méditerranée. Des experts d'architecture navale étudient l'état du cargo de 4000 tonnes qui transportait 2650 tonnes de bobines d'acier pour voir si les efforts qu'il peut supporter, en particulier en cas de remorquage. L'économie, maintenant avec un constat, l'ADEC va bien.
C'est en tout cas ce que déclare Didier, la présidente de l'Agence de développement économique de la Corse.
Oui, suite à la publication du rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes. C'est un rapport pour la période 2011-2017, pas d'observation particulière de la part de la Chambre des comptes, qui émet toutefois des recommandations, 5 recommandations, recommandations qu'a déjà commencé à mettre en œuvre l'ADEC, comme l'explique son président Jean-Christophe Angelini.
Nous avons déjà mis en œuvre toutes les conclusions relatives à ces 5 recommandations, qui sont pour certaines très techniques, mais pour certaines autres, elles ont une dimension politique réelle. Pour les Corses qui nous écoutent, ça peut sembler un peu trop technique, mais en gros, c'est un débat de fond qui est posé. L'ADEC doit-elle faire rémunérer ses prestations par les entreprises qui s'adressent à elle? Mon point de vue, c'est plutôt non, même si le débat peut être posé. Mais il y a ici une volonté de conserver une agence économique qui participe d'un service public de l'économie et qui mette à égalité l'ensemble des entreprises qui peuvent en bénéficier. Donc c'est un débat qui est aujourd'hui ouvert, mais je me félicite que l'on ait des débats de cet ordre-là et pas de critiques trop vives, voire même de critiques du tout, ou encore une fois d'observation de la part de la Chambre des comptes.
Propos recueillis par Thibaut Kilikini. On reste dans le domaine de l'économie, Jean-Pierre, avec l'INSEE.
Et oui, l'Institut National de la Statistique publie une étude baptisée « Salaires et conditions d'emploi ». Analyse des 12 principales branches insulaires.
Ce sont 48 pages qui décortiquent le quotidien économique de l'hôtellerie, l'automobile, le tourisme, le transport routier, la boulangerie-pâtisserie, les travaux publics, par exemple. Pour en parler, Magali Bonnefond, chef du service études et diffusion de l'INSEE de Corse, nous dit À quoi sert cette étude et à qui elle s'adresse ?
Cette étude, nous l'avons réalisée en partenariat avec la Direct et l'Agence de développement économique de la Corse, qui souhaitait avoir des éléments précis et chiffrés sur les conditions d'emploi et de salaire dans les principaux emplois de l'économie insulaire. Donc, ils avaient des besoins de meilleures connaissances, hein, de quels sont les emplois que l'on trouve sur l'île, mais aussi avoir des éléments qui leur permettent de négocier dans le cadre des conventions collectives, des améliorations pour les salariés.
Alors, à la lecture de cette étude, on se rend compte qu'il y a vraiment de grosses disparités entre les branches, les conditions de travail, les salaires. Est-ce que cette étude peut aussi servir de carrefour professionnel pour les jeunes, leur montrer que si on veut gagner sa vie, le transport aérien, c'est plus rémunérateur que le tourisme ?
Alors oui, ça peut servir dans tous les sens. Ça peut servir aux employeurs à s'interroger sur leurs pratiques de rémunération et de conditions de contrat de travail. Ça peut servir aussi effectivement aux jeunes pour comprendre dans quel secteur ils vont avoir les meilleures conditions d'emploi et donc faire les études qui correspondent aux qualifications qui sont recherchées.
Quels sont les rapports avec les chefs d'entreprise lorsque l'INSEE débarque et effectue le sondage.
Alors, sur cette étude-là, nous avons utilisé une source administrative, qui sont les déclarations annuelles de données sociales, qui sont des déclarations que les entreprises remplissaient, puisqu'aujourd'hui le système a changé, on est passé à la déclaration sociale nominative, mais remplissaient jusqu'en 2016-2017, hein, puisque le changement s'est fait progressivement, pour chacun de leurs salariés, avec une description donc du type de poste offert dans l'entreprise, du type de contrat de travail et de rémunération. Et c'est à partir de la compilation de ces déclarations sociales que nous pouvons traiter sur un ensemble précis, une branche ou un secteur d'activité, des conditions d'emploi qui sont offertes.
Est-ce que les salaires progressent en Corse ? Est-ce que la Corse rattrape son retard ?
Alors là, nous n'avons pas fait d'études en évolution. Nous avons voulu faire une photo et s'intéresser vraiment à la structure de l'emploi. Le salaire régional progresse évidemment comme ailleurs, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cet écart de salaire, il est essentiellement lié à des différences de structure du tissu économique. Par exemple, nous avons très peu de secteurs financiers en Corse qui sont des secteurs hautement rémunérateurs, de même que d'industrie. Donc il est normal qu'en moyenne, on ait un salaire horaire quand on l'ensemble des salariés qui soit plus faible. Il reflète le tissu productif que nous avons sur l'île. Et de même, quand on considère une branche spécifique, hein, que ce soit l'hôtellerie-restauration ou le bâtiment, quand on compare le salaire moyen avec celui que l'on trouve dans la même branche en province, il faut regarder l'impact de la différence de la composition de la branche dans l'île. Par exemple, le fait qu'on ait moins de grands établissements va peser négativement sur le niveau des salaires, le fait qu'on ait moins de cadres aussi. Donc dans le dossier, on a à la fois les écarts de salaire brut, mais aussi les écarts, ce qu'on appelle corriger des effets de structure. Donc quand on neutralise un petit peu la différence de composition du tissu productif, et là on voit que parfois, des écarts qui apparaissent négatifs peuvent devenir positifs.
Magali Bonnefond, chef du service études et diffusion de l'INSEE de Corse.
18h09 à Paris, Didier, depuis une quinzaine de jours, se tient le procès du Mediator.
Ouais, le Mediator, c'est cet antidiabétique très largement prescrit comme coupe-faim, commercialisé par le laboratoire Servier pendant une trentaine d'années. Il a été retiré du marché le 30 novembre 2009. Mais c'est en juin 2010 que l'ampleur du scandale sanitaire est révélée au grand public. Depuis, des plaintes ont été déposées, des expertises médicales réalisées, plusieurs centaines de personnes ont demandé des comptes au laboratoire Servier. Parmi les plaignants, il y a Marie-Josée Proctor, elle est membre de l'association Corse des victimes du Mediator. Et elle nous livre un témoignage, son témoignage, sur ce qu'est sa vie aujourd'hui, ce qu'elle attend du procès et la manière dont elle le suit.
Au vu de la situation, on est bien obligé de faire avec, mais bon, nous ne sommes pas suivis du tout. Je pense qu'on aurait besoin d'être pris en considération parce que il se passe rien. Ça fait 10 ans que nous sommes en procès et nous n'arrivons au bout de rien.